cette machine, c'est celle qui changera le plus notre vie dans l'avenir.
C'est pour aujourd'hui, pour demain.
Qu'est-ce qui a changé ?
Huitième et avant-dernier numéro de la saison estivale, durant laquelle nous nous penchons chaque samedi sur les conséquences de la transformation numérique sur notre quotidien. Ce matin, nous allons voir si les nouvelles technologies nous aident donc à mieux vivre dans ces espaces où se concentre une grande partie de la population française, puisque près d'un Français sur deux vit dans une commune de plus de 10 000 habitants. Avec le numérique est en effet apparu le concept de Smart City, traduit le plus souvent par ville intelligente. Un concept qui sous-entend des idées pas forcément opposées, mais en tout cas différentes, avec d'une part le développement de services ou leur réorganisation en utilisant les informations fournies par ces nouvelles technologies, d'autre part la possibilité d'associer ceux qui habitent les villes à la conception ou au fonctionnement de leur cadre de vie avec des systèmes capables de favoriser la participation citoyenne. Alors, quels sont les choix possibles pour les communes et pour ceux qui y vivent ? Car, comme l'écrivait Shakespeare dans sa tragédie Coriolan, qu'est-ce qu'une ville sinon ses habitants ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Éric Le Gall, directeur général d'Issimédia, société d'économie mixte chargée de la communication et des technologies de l'information de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Une commune pionnière et souvent montrée en exemple pour sa démarche dans le numérique. Bonjour monsieur Le Gall.
Bonjour.
Avec nous au téléphone, Philippe Sorel, maire de Montpellier depuis 2014 et président de Montpellier Méditerranée Métropole depuis janvier 2015. Montpellier a été désignée première Smart City française en 2014 par la commission en charge de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen. Bonjour monsieur Sorel.
Bonjour.
Et enfin, nous entendrons Alain Rinck, architecte, urbaniste, fondateur et dirigeant de l'agence Host Architect, de la société UFO également, et conseiller stratégique pour la ville numérique à l'Institut des Mines Télécom. Et est présente avec nous en studio Morgane Tual, journaliste du quotidien Le Monde, qui est partenaire de l'émission. Bonjour Morgane.
Bonjour.
C'est parti pour une heure de balade dans les allées d'une cité numérique.
France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Didier Siamour.
Et nous commençons avec vous, Morgane, qui nous relatait au quotidien la transformation numérique de notre société dans la rubrique Pixel du journal Le Monde. Alors, la ville intelligente offre des opportunités, mais il y a aussi le revers de la médaille. Elle représente en effet des risques.
Eh bien oui, tout à fait. Alors pour ça, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. Rappelez-vous un instant des villes futuristes imaginées par la science-fiction. Est-ce que vous y êtes ? Ouais. C'est bon ? Est-ce que vous avez envie d'y vivre ? Eh bien, moi non plus, c'est de la SF. D'accord, mais on n'en est pas si loin et elle montre assez bien comment le rêve des villes ultra-connectées pourrait éventuellement se transformer en cauchemar. Un cauchemar de surveillance, avant tout, digne du roman 1984. Eh bien, nous sommes en 2016 et sachez que ça a déjà un peu commencé avec des petits services du quotidien. Prenez par exemple la ville de Saragosse, en Espagne. Elle a créé une carte de citoyen qui permet à elle seule de prendre le bus, d'entrer dans les musées, d'emprunter des livres à la bibliothèque, d'aller au théâtre, de payer le parking et d'accéder au wifi de la ville. Alors c'est pratique, très très pratique, mais c'est aussi terrifiant. Imaginez le nombre de données dont les autorités peuvent disposer avec cette carte. Elles connaissent vos trajets, le type d'exposition qui vous plaise, les livres que vous lisez, à quel moment vous vous connectez à Internet et peut-être même ce que vous y faites. C'est un outil que George Orwell lui-même n'avait pas osé imaginer.
Ouais, et puis on peut ajouter à cela la vidéosurveillance.
Eh bien oui, évidemment, on le sait bien, elle est déjà massivement déployée dans les villes, mais elle est encore bien en dessous de ses capacités. En fait, les derniers programmes d'intelligence artificielle commencent à être capables de reconnaître en direct les visages et même parfois de leur donner un nom. Ils savent aussi de mieux en mieux comprendre les situations qu'ils peuvent voir dans une vidéo. En clair, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'une caméra de surveillance pourrait un jour être en mesure de repérer en temps réel un individu fiché S abandonnant un colis suspect. Mais aussi, attention, de noter automatiquement dans un fichier que vous avez sorti votre chien à 7h, manifesté à 14h, embrasser votre maîtresse à 18h et peut-être un petit peu trop bu vers 23h. Et ces informations pourront bien sûr venir compléter la base de données vous concernant. Et puis, vous pouvez ajouter à cela d'autres technologies comme les fameux compteurs connectés. Alors, ils sont très pratiques, eux aussi. Plus de relevés de compteurs à effectuer et puis les factures sont précises. Mais savoir combien d'énergie vous consommez en direct, eh bien, ça en dit long sur vous. À quelle heure vous vous levez, par exemple, si vous recevez du monde chez vous. Ou bien si votre couple vient de voler en éclats. Eh bien oui, puisqu'il n'y a plus qu'une seule douche le matin, alors qu'auparavant, il y en avait deux.
Oui, mais bon, Google, Facebook et compagnie, eux, collectent aussi des données sur vous.
Oui, oui, tout à fait, effectivement. Mais Google nous laisse encore le choix de l'utiliser ou non. Les services de la Smart City, eux, ne resteront pas optionnels bien longtemps et ils seront de toute façon mis en place par ce type d'entreprise. Et puis, il reste une autre question très importante dont il faut se préoccuper dès maintenant, c'est celle de la sécurité de toutes ces données. Aucun système informatique n'est aujourd'hui à l'abri d'un piratage et on sait que les services publics ne sont pas toujours les plus à même de se doter des technologies les plus sûres. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont par exemple réussi à pirater des feux de signalisation et à Lille, chez nous, un hacker a aussi piraté le panneau lumineux d'un parking pour y écrire quelques grivoiseries sans conséquence. Mais avec les enjeux et les possibilités de la ville intelligente, pas sûr que le piratage reste du niveau de la blague potache bien longtemps.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ?
Est-ce vraiment si invraisemblable ?
Rien de tout ça n'est réel.
Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
Vous aurez peut-être reconnu un extrait du film Matrix. Hein. Alors, messieurs, la ville intelligente, Éric Le Gall, vous qui venez d'ici les Moulineaux, est-ce que c'est pas un peu 1984 comme l'estime Morgan Tuell ?
Franchement, c'est à peu près exactement l'inverse de ce que je viens d'entendre. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'imagine, parce que on est encore en démocratie et les citoyens ont encore un rôle évidemment important pour décider si oui ou non ils vont accepter d'entrer dans ces services-là et même de les donner. Et puis au-delà de ça, évidemment qu'il y a des menaces, évidemment qu'il y a des risques, c'est le lot de la vie, quelle qu'elle soit, même si elle n'était pas technologique. Mais je rappelle toujours, moi, qu'on a mis quand même à peu près 10 ans pour retrouver Ben Laden, qui a toujours un avion de Malaysian Airlines qui a disparu et dont on ne sait pas où il se trouve. Donc à une époque où, soi-disant, on était capable d'être pisté et être capable, minute par minute, de savoir ce qu'on fait, on voit bien que les limites de ce type de système. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir ce tableau un peu effrayant, parce qu'au contraire, il y a de superbes opportunités pour les villes et pour les citoyens de profiter de ces outils-là.
Alors Philippe Sorel, même question pour vous à Montpellier, dont vous êtes le maire. Est-ce que c'est les nouvelles technologies, c'est un peu 1984 ou pas ?
Écoutez, j'ai beaucoup apprécié l'analyse qui a été faite par Morgan Tuell à l'instant. Je la trouve réaliste. Ceci dit, je considère que on ne peut pas tourner le dos au progrès et il faut utiliser toutes les capacités que l'on a pour améliorer la vie quotidienne des citoyens. Et pour moi, la Smart City, la ville intelligente, c'est une des façons de regrouper toutes ces techniques qui vont permettre à chacun de mieux vivre et avec une plus grande sécurité. Il faut voir le côté positif des choses. Moi, j'essaie toujours dans mon comportement, que ce soit pour le numérique ou pour d'autres thématiques, de mettre au centre de ma réflexion ce que les hommes du XVIIIe siècle appelaient la raison. Souvent, ce discernement, cette raison, c'est ce qui manque le plus. Je voudrais cependant, si vous me le permettez,
très rapidement,
pour les auditeurs
alors
de France Inter que je remercie de leur écoute, redéfinir le mot de smart, parce que tout le monde parle de smart, mais personne ou très peu de gens savent de quoi il s'agit.
Alors, Philippe Sorel, on va le définir dans quelques instants. On va justement commencer par ça.
Ça a toujours été comme ça dans Paris. L'idée commune qu'on essaye de nous faire croire qu'il y a un vieux Paris et de l'autre côté une modernité qui essaierait sauvagement de le détruire et de le défigurer est une idée complètement fausse. Le privilège d'une ville ancienne, c'est qu'elle fabrique en permanence sa modernité sur ce conflit entre le vieux et le moderne.
On voudrait que ça gronde sans agiter ses ailes. Voici le nouveau monde. Combattant virtuel. Welcome sur le forum de révolution.com. De l'action par email, des pavés en pixels. La souris se déplace et se bouge à ta place. Révolution.com. l'oxygène en stock. Et puis changer le monde sans changer d'univers. L'international piégé dans la toile. C'est quoi l'action par email des Molotov sans cocktail? La souris se déplace, elle se bouge à ta place.
C'était Révolution.com par le groupe français No One Is Innocent, publié en 2004 avec en introduction, vous l'aurez reconnu, une citation de Fabrice Lucchini, extrait du film Paris de Cédric Tapiche, sorti en 2008.
Didier Siamour sur France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain?
Nous bâtissons pour que les hommes vivent mieux dans leurs cellules primitives, dans la famille, afin que le foyer soit abrité vraiment et profite enfin des joies essentielles pour reprendre... un terme de Le Corbusier repris par tout le monde maintenant, pour qu'ils puissent profiter de ces joies essentielles qui sont le soleil, l'espace, la verdure. Nous voulons ramener la nature au milieu de la cité. C'est la volonté des hommes de notre temps de ne pas accepter d'être enfermés toute la vie dans une muraille de pierre.
En 1952, lors d'une inauguration à Marseille, Eugène Claudius Petit, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, a expliqué sa politique pour l'habitat. Voici la forme, l'expression ont changé, évoquerait-on encore en 2016 ces joies essentielles. Ramener la nature au milieu de la cité est une idée qui perdure au XXIe siècle. En revanche, ce sont les moyens utilisés qui ont changé, notamment dans ce qu'on appelle en bon français les smart cities, autrement nommées villes intelligentes, où l'utilisation du numérique permet de revoir l'organisation et le fonctionnement de l'espace urbain. Pour en parler, donc, deux représentants avec nous de villes qui s'illustrent par leur développement du numérique, à savoir Montpellier et ici les Moulineaux. Et je voudrais d'abord vous interroger sur la notion même de Smart City. Écoutons par exemple ce qu'en pense Lydia Babassi-Victor, directrice du développement et de l'innovation du groupe Vinci Énergie, que Béatrix Moreau avait interrogé fin juin lors du salon Viva Technologie à Paris.
Il n'y a pas de définition universelle de la Smart City. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a autant de villes intelligentes et de territoires intelligents que de villes et de territoires existants, parce qu'il faut prendre en compte l'usage. Pour être attractive, une ville, elle doit proposer un certain nombre de services aux entreprises, aux citoyens, aux touristes. Ce sont des services qui, normalement, doivent leur permettre de bien vivre cette ville. Deuxième élément, on va dire... tout ce qui va tourner autour de la santé dans la ville et le bien-être. Quand je vis dans une ville, comment je fais pour ne pas respirer du CO2? Bien, je dois avoir une politique publique qui permette de réguler le trafic, de désenclaver, d'anticiper une mobilité fluide. Puis on a des enjeux politiques et financiers. Et on sait aujourd'hui que les budgets, si je puis dire, sont de nature frugale. Donc on va utiliser les données, notamment, et cette transformation numérique pour... comprendre les usages tels qu'ils apparaissent, anticiper leur évolution et donc mieux exploiter les différents systèmes pour produire un service public de qualité. Toutes les infrastructures, en fait, produisent des données. Un transport public produit des données, donc le métro, les bus, les voitures elles-mêmes, les citoyens, l'éclairage public, les feux tricolores. Pourquoi la donnée est aussi un enjeu social? C'est qu'elle va permettre d'inclure le citoyen dans les décisions qui vont pouvoir être prises, et il va pouvoir faire part de ses attentes beaucoup plus facilement grâce aux plateformes, notamment d'Open Data.
Alors, on se retrouve pour parler de Smart City. On entendait bien que la représentante du groupe Vinci, dont la filiale énergie travaille avec des collectivités territoriales, elle souligne, la complexité de ce concept de Smart City avec la nécessité de combiner, on va dire, des données, de la fameuse data. Éric Le Gall, c'est quoi pour vous la Smart City? C'est ses services avant tout? Ce sont des services.
Oui, ce sont des services avant tout, et c'est d'abord le citoyen au centre de nos réflexions, de nos décisions. Et il faut quand même rappeler pourquoi on est rentré dans cette logique de smart city. On a aujourd'hui les villes, elles ont un triple défi à relever. Il y a la révolution numérique dont on parle et qui est en train de changer la manière même dont les gens appréhendent leur vie quotidienne dans la ville. On a la révolution urbaine. Il y a de plus en plus d'habitants dans nos villes et nos infrastructures ne peuvent pas suivre. Clairement, on va pas pouvoir doubler ou empiler les routes les unes par-dessus les autres. Et puis, il y a les défis climatiques auxquels on doit aussi apporter une réponse. Et là, on a une superbe opportunité avec le numérique, c'est de nous donner des outils pour essayer de régler ces problèmes-là, en tout cas d'essayer de les améliorer. Alors, et c'est là que c'est important.
Oui, Philippe Sorel, vous qui êtes en ligne depuis Montpellier avec nous, vous vouliez tout à l'heure donner votre propre définition de la Smart City. Quelle est-elle pour vous ?
Moi, je reviens au terme de smart, qui est un terme qui est très utilisé dans l'industrie et qui signifie spécifique pour S, mesurable pour M, acceptable pour A, réaliste pour R et temporellement défini pour T. On pourrait regrouper cela sous la définition de ville durable, en y ajoutant l'évaluation, en y ajoutant le temps de réalisation et en y ajoutant également une place plus importante pour la participation citoyenne. Et j'y intègre également les trois données que vient de définir monsieur le directeur de la communication
D'ici les Moulineaux, Éric Le Gall.
Oui, Moulineaux, oui. Parce que ce sont les défis qui nous sont proposés, mais je souhaitais rappeler cette définition originelle du terme smart, qui indique bien cette donnée de ville durable à laquelle ont été rajoutées beaucoup de notions qui sont très importantes pour les révolutions auxquelles nous avons à faire face.
Alors, pour l'architecte urbaniste Alain Rinck, qui a fondé et dirige l'agence Host Architect et la société UFO, qui a développé des technologies pour associer la population à la réflexion sur l'espace urbain, l'approche n'est pas vraiment la même.
Il y a plusieurs générations de ce qu'on appelle les smart cities ou les villes intelligentes. Il y a une première génération qui était très portée en fait par les industriels qui promouvaient donc ces nouvelles technologies avec énormément de promesses assez magiques. Il nous semble que cette première génération, on est en train d'en sortir et qu'on est en train d'aller dans quelque chose qui nous correspond plus, nous, qui est plutôt la ville de l'intelligence collective. Et là aussi, les nouvelles technologies sont extrêmement importantes pour pouvoir faire passer à l'échelle du grand nombre l'intelligence collective. Je pense que cette première génération des villes intelligentes, la question qu'on a mis un petit peu de temps à se poser, c'était à qui bénéficiait cette intelligence, justement. On s'aperçoit que les promesses, elles sont assez rarement tenues. Par exemple, à Nice, en mai 2016, Nice a arrêté son système de stationnement intelligent. Parce que finalement, ça ne fonctionnait pas et ça a coûté 10 millions et ça s'est arrêté. Cette première génération des villes intelligentes, ça a été vraiment un concept marketing et qui a aussi des défauts encore plus importants. Saskia Sassen, qui est une sociologue de Columbia aux États-Unis, donc elle dit que c'est quand même très très paradoxal puisque ces smart cities appuyées sur les nouvelles technologies pour faire une optimisation de la ville ont réussi à inventer pratiquement le concept de ville jetable. Aujourd'hui, il y a des parcs-mètres, il y a des écrans qui sont noirs, donc à Nice, et vraiment, il va falloir détruire, jeter ces éléments.
Alors, Alain Rinck voit donc dans cette notion de ville intelligente une manière, surtout pour les industriels, de vendre du service. Rappelons que le marché, d'ailleurs, des villes intelligentes a été estimé à 1500 milliards de dollars pour 2020. Est-ce que vous, messieurs, dans vos villes respectives, est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été abandonnés ? Est-ce que vous travaillez avec ces grands groupes industriels qui sont un peu pointés du doigt par Alain Rinck ? Éric Le Gall, pour aussi les Moulineaux.
D'abord, rappelons quand même que l'innovation, par définition, c'est une longue marche vers le possible, ou en tout cas le souhaitable.
Et donc, vous voulez dire par là qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marcheront pas.
Bien sûr, enfin, moi, je viens d'entendre ce que vient de dire sur la ville de Nice. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Tester des choses, c'est essentiel. Parce qu'on ne sait pas comment les choses se passent. On ne va pas adopter, justement, une espèce de smart city de fait, avec une ville un peu gouvernés par les algorithmes, sous prétexte que, par exemple, des industriels nous diraient « Voilà, je vous propose un package pour faire fonctionner votre ville globalement et vous allez voir, on va régler vos problèmes. » Aucune ville, à ma connaissance, ne va prendre ce type de décision. Donc on doit tester les choses, on doit essayer de regarder, avec la population d'ailleurs, et avec les entreprises, comment ça fonctionne. Je vous prends juste un exemple. On est en train de travailler sur les sujets de smart mobilité, c'est-à-dire comment on peut essayer de résoudre les problèmes d'embouteillage dans l'agglomération parisienne. On a mis autour de la table les industriels, aussi bien évidemment de l'informatique, mais aussi des transports, de la circulation. On a associé la population, on essaye de trouver de nouvelles solutions. Et je dis bien, on essaye de trouver une nouvelle solution. Personne n'est capable de vous dire, ça y est, j'ai trouvé la recette miracle pour régler le problème. Donc, il faut innover, mais il faut expérimenter. Et ça, c'est vraiment un point essentiel parce que ce droit à l'expérimentation aujourd'hui n'est pas assez reconnu dans les mentalités françaises.
On va en reparler sur les problématiques de déplacement et de mobilité. Philippe Sorel, vous à Montpellier, est-ce que il y a des choses que vous avez dû abandonner dans cette logique de ville intelligente et de services à développer?
A priori, sur ce que nous avons proposé, nous avons 40 projets qui sont aujourd'hui à l'étude, et certains ont abouti et d'autres sont en cours de réflexion et d'expérimentation. Nous travaillons avec les grands groupes, mais nous travaillons beaucoup avec les start-up qui sont très florissantes à Montpellier, puisque nous sommes leaders au niveau national, et avec les universités qui sont très importantes à Montpellier, les labos de recherche. Donc c'est un travail collaboratif, et nous proposons cela en discussion lors des expérimentations aux citoyens qui peuvent à la fois donner leur expertise, apporter l'expertise de l'usage, mais également nous faire des propositions sur les améliorations à apporter.
Alors, Éric Logal, vous connaissez le centre de création numérique, hein, ici les Moulineaux, le Cube, ça s'appelle, qui est présidé par Nils Asiomanov. Eh bien, l'an dernier, il avait été interrogé justement sur, et il donnait une vision synthétique de la ville intelligente.
Si on regarde les smart cities dans le monde, on pourrait prendre deux opposés un petit peu. Vous avez d'un côté Dubaï ou Masdar, hyper numérique avec toutes les meilleures innovations du monde en termes d'infrastructure. Et puis vous avez Détroit. Détroit, c'est une ville en dépôt de bilan qui se réinvente complètement par nécessité avec le numérique et qui, autour de l'économie collaborative, sociale, solidaire, réinvente la manière de vivre ensemble. Eh bien, je pense que ça illustre bien les deux facettes de la ville numérique. D'un côté, les infrastructures pour être plus efficient, mieux géré, etc., faire des économies. Et puis de l'autre, la ville plus solidaire, plus sociale, plus intelligente, plus culturelle, plus éducative. Et là, il y a un travail énorme encore à fournir parce que sur ce deuxième volet, ça démarre tout juste.
Alors, Monsieur Sorel, toujours depuis Montpellier, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à combiner ces deux approches, cette approche, on dira donc, très industrielle, avec les services qui peuvent se développer dans la ville intelligente et la prise en compte des citoyens, de la parole des citoyens?
Oui, nous avons d'ailleurs proposé un nouvel outil qui s'appelle Villa d'alerte et qui est un logiciel qui est développé pour gérer tous les risques. Et en particulier dans le midi, dans le sud, les risques d'inondation qui à Montpellier sont très fréquents, et vous avez vu la grêle il y a quelques jours qui a détruit une partie des récoltes. Cela permet par un jeu de combinaison de données avec en travail et collaboration avec une start-up qui est devenue, je dirais, une institution en France puisqu'elle travaille avec toutes les communautés de communes et avec les communes, qui s'appelle Predict, qui nous permet d'anticiper les événements météorologiques, de pouvoir apporter aux citoyens une veille sur l'état de la ville. Il n'empêche que à cela ont été combinés des moyens d'information particuliers qui permettent aux commerçants, aux habitants riverains d'être alertés par SMS, par sonnerie téléphonique, mais aussi par des sirènes que j'ai fait poser sur un certain nombre d'édifices municipaux.
Oui. Et est-ce que de votre côté, Monsieur Sorel, vous avez consulté en amont la population pour savoir si ce type de service t'intéressait? Parce que le succès d'un service, oui, c'est d'abord l'usage, oui, qu'on en fait.
Bien, oui, sûr. Sur un autre outil qui concerne les transports et qui est une plateforme qui permet à l'habitant de savoir quel est le moyen de transport le plus rapide dont il peut bénéficier à l'endroit où il se trouve. Nous avons consulté 500 usagers, hein, et une consultation, et la consultation globale a porté sur 2500 citoyens qui se sont exprimés, bien sûr.
Ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées, tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait?
Non.
Si, si, ils l'ont fait, c'était pas mal parti, mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage, hein, mm-hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non. La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
Ouais.
Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence, mm-hmm. Hein. Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin dit pot de vin.
Ouais.
Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Moi, personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres très aérés, un peu à la Frank Lloyd, typiquement dans l'esprit des habitations japonaises. Parce que ces gens-là, malgré tous leurs défauts, avaient compris beaucoup de choses.
No telling what she might do, 'cause she never had the chance to hurt you too. And if you're asking why, if you're asking why, you looked a little too pleased when you saw her.
Après un exposé sur l'urbanisme de Benoît Poulvord, hein, tiré du film C'est arrivé près de chez vous, sorti en 1992, c'était Cat Size, duo britannique avec Be Careful Where You Park Your Car.
What is the city but the people? True, the people are the city.
France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain?
L'automobile particulière va devoir quitter la ville et qu'elle sera remplacée par des véhicules à forte contenance, des autobus, des cars qui transporteront dans un confort qu'il est très facile de réaliser les gens comme les transportent par exemple les métros qui sont un outil exécrable de la civilisation moderne. De telles théories me sont venues dans la ville de Chandigarh qui est la capitale du Punjab que je réalise en ce moment-ci au pied de l'Himalaya. Il n'y aura en principe pas d'automobile mais des canaux de grande circulation, des moyens de grande circulation grâce à la forte voiture. Et alors ces problèmes de parking et de circulation à l'intérieur des villes et de non-stationnement le long des voies. Mais c'est toute la réforme des villes et leur refonte, leur reconstruction. On n'y coupera pas.
Et la place de la voiture dans la ville, hein, c'est un sujet abordé par Le Corbusier dès 1950 lors d'un débat sur la TSF. Un sujet concret auquel nous sommes encore confrontés aujourd'hui alors que nous sommes près de 70% des Européens à vivre dans des centres urbains, des espaces où les nouvelles technologies se développent pour aider parfois à circuler et où les déplacements sont une des problématiques souvent abordées dans ce qu'on appelle les villes intelligentes, thème de l'émission de ce matin sur France Inter. Nous accueillons d'ailleurs Éric Le Gall d'ici les Moulineaux, Philippe Sorel de Montpellier, Morgane Tual du journal Le Monde. Alors nous parlions de problématiques de déplacement dans les villes et si possible dans les villes intelligentes qui essaient de trouver des solutions avec les nouvelles technologies. Éric Le Gall a ici les Moulineaux dont vous occupez des services d'information et de communication. Est-ce que on essaie d'aborder justement cette problématique de la mobilité ?
Dans un esprit d'innovation, pour le coup. En fait, c'est un des sujets majeurs et c'est un bel exemple de la Smart City. Ça fait longtemps qu'on sait évidemment que les villes rencontrent des problèmes de circulation. Et aujourd'hui, quelque chose de nouveau, en tout cas c'est ce qu'on pense, est arrivé, c'est les services numériques. C'est l'hyper-personnalisation des services que les gens s'approprient, notamment à travers leur smartphone. Et c'est ces données-là, si on leur communique, ça c'est notre conviction, si on communique la bonne information en temps réel, ultra personnalisé à un individu, il changera ses comportements, donc on pourra agir plus globalement. Mais pour ça, il faut mettre en place justement les infrastructures qui vont avec. Et c'est là où l'esprit collaboratif est essentiel. André Santini a téléphoné par exemple au patron de Cisco France, qui est installé ici à Moulineaux, en lui disant « Essayons de travailler ensemble sur ce problème de transport et de mobilité. Rassemblons donc les entreprises importantes qui sont sur la ville. Hein. Il y a Transdev, il y a Bouygues Immobilier, il y a Colas, il y a la Caisse des dépôts, il y a Engie. Et ensemble, essayons de définir ces sujets-là avec la population. On a créé un groupe de réflexion autour d'un Living Lab. Living Lab, ça veut dire un laboratoire vivant où on invite les gens à venir et on leur dit venez nous dire d'abord ce que vous attendez vous de ce type de nouveau service, venez tester de nouvelles applications, y compris parfois très en avance de phase. C'est pour ça que je dis que l'expérimentation est vraiment essentielle. Et ensuite, essayons de définir comment on peut agir et agissons sur tous les plans, c'est-à-dire le stationnement, le trafic avec les flux intelligents par exemple, les transports en commun notamment avec l'open data et les données qu'on peut donner là-dessus et l'anticipation de nouveaux usages. On parle de véhicules autonomes aujourd'hui de plus en plus. Qu'est-ce qui va se passer dans nos villes lorsqu'on va devoir utiliser ce type d'outils ?
C'est intéressant que vous parliez de Cisco parce que le terme de Smart City est apparu, semble-t-il, en 2005 quand l'ancien président des États-Unis Bill Clinton avait demandé justement à Cisco de travailler sur des solutions pour décongestionner les villes. C'est assez drôle. Philippe Sorel, à Montpellier, vous, cette problématique de la mobilité, des déplacements, comment vous l'abordez à travers les nouvelles technologies, justement ?
J'allais dire un mot tout à l'heure en réponse à la question précédente sur l'outil EMMA et son application MoveIt. C'est la possibilité pour l'usager, sur son smartphone, d'avoir des données prédictives en temps réel. C'est la possibilité pour lui de choisir le meilleur itinéraire possible et c'est pour cela que nombre d'usagers, nombre de citoyens ont été consultés. Montpellier possède un réseau de tramway qui est le troisième en France après Paris et Lyon qui dessert à la fois la ville mais également la métropole. Il faut savoir que dans l'ancien mandat, la métropole était gouvernée, l'agglomération était gouvernée par une personne différente que la ville centre. Aujourd'hui, c'est moi-même qui assure la présidence des deux institutions, ce qui fait que nous avons mis en commun l'ensemble des données numériques. Et pour les transports, c'est fondamental puisque la compétence transport se situe à la métropole.
Et une des premières mesures, quand vous êtes arrivé, ça avait été quand même de stopper un des chantiers du tramway, me semble-t-il, non ?
Nous venons d'inaugurer. Non, pas du tout.
Non.
Au lieu de faire la ligne 5, j'ai fait la ligne 4.
Ah, c'est ça, voilà, il y a eu un changement dans le programme.
J'ai changé le programme et j'ai commencé par la ligne 4 qui bouclait tout le centre historique et elle vient d'être inaugurée le 1er juillet.
D'accord. Et dans cette problématique des déplacements et justement de lignes de tramway, est-ce qu'on associe aujourd'hui la population en amont ?
Oui, la population est associée à Damon, puisque c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce changement de programme en mettant la ligne 4 avant la ligne 5 dans sa construction.
Ouais. Parce que vous savez quand même que quand on associe parfois les problématiques dans les problématiques de déplacement, on sait très bien qu'aujourd'hui ça peut être très compliqué quand on donne la vie. Regardez ce qui se passe à Paris, où souvent les mesures qui sont annoncées entraînent des levées de boucliers plus qu'autre chose. On a un exemple d'ailleurs en 1990 à Brest, quand on a voulu faire un tramway.
Dès ce matin, les affiches proclamaient à Brest les résultats du référendum. Personne, à vrai dire, ne s'attendait à un rejet aussi catégorique du projet de tramway. Les Brestois et les habitants de la communauté urbaine ont, semble-t-il, été effrayés par un projet qui se montait à 700 millions de francs. Brest se refuse donc à faire comme Nantes ou Grenoble, et il n'est plus question que le tramway traverse la ville dès 1994. Une nouvelle fois, la capitale du Ponant rejette un grand projet dont on disait pourtant qu'il allait donner une nouvelle image de la ville.
Je crois qu'on ne peut pas construire une ville contre la volonté de la majorité de ses habitants. J'aurais préféré que la réponse soit positive, bien entendu. Mais dans la mesure où j'interroge la population, j'ai aussi décidé de tenir compte de sa réponse. Donc nous chercherons d'autres solutions pour le transport collectif.
C'était l'ancien maire de Brest, donc, qui avait été obligé, vous l'avez compris, de ranger son dossier. Éric Le Gall, justement sur ces problématiques de déplacement, qui se disaient qu'ils peuvent être très névralgiques, on va dire, est-ce que consulter la population, ça ne représente pas un risque ?
J'ai toujours du mal à associer le mot risque à consultation de population. Ouais. Évidemment que
il y a toujours un risque, mais est-ce qu'avec ces nouvelles technologies, on a davantage recours ? Est-ce que c'est pas un référendum permanent ?
Ah ben c'est ce que j'allais dire. Avec les nouvelles technologies, en fait, la population, elle s'exprime en permanence à travers les réseaux sociaux, à travers le mail, à travers un outil, par exemple, à Issimono, qui s'appelle Tell My City, qui permet à travers son smartphone d'interpeller la mairie ou de suggérer des idées. Donc ça se passe de toute façon de manière permanente. Mais au-delà de ça, rappelez-vous que le projet, par exemple, du Grand Paris Express, qui va structurer les transports en commun de la couronne parisienne, la métropole, a fait l'objet d'une consultation publique inédite. Jamais autant de monde n'a été associé en amont à ce type de réflexion. Donc ces consultations existent, y compris hors numérique. Mais les deux aujourd'hui sont essentiels pour pouvoir bien consulter la population sur ces questions-là, évidemment. Mais il est extrêmement difficile aussi, individuellement, de se projeter sur ce que serait notre trajet idéal, finalement, par rapport à l'intérêt général. Donc il faut toujours peser, lorsqu'on est à la tête d'une collectivité, évidemment, ce type de paradoxe.
Même question pour vous, Philippe Sorel. Est-ce que la consultation de la population, rentrée dans une démarche de participation citoyenne, comme on dit, avec les nouvelles technologies, est-ce que c'est plus facile ? Et comment on maîtrise ce facteur risque ?
J'ai également la même appréhension à lier les deux mots, risque et consultation citoyenne. Je pense que la consultation citoyenne est incontournable. Il faut la faire et il faut bien la faire. Et il faut prendre le temps de la faire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la cinquième ligne de tramway dont nous parlions tout à l'heure a été repoussée dans le temps. Non pas qu'elle ait été annulée, mais qu'elle a été repoussée parce que elle ne servait pas l'intérêt général de la ville. D'ailleurs, l'élection municipale à Montpellier s'est faite autour de cette problématique. Et si j'ai gagné très largement, c'est parce que j'ai proposé à ce qu'il y ait un moratoire sur cette ligne, qu'elle soit rediscutée en fonction des quartiers qu'elle traversait, puisqu'elle oubliait une série de quartiers populaires qui me paraissaient être mal desservis.
Donc ça veut dire que l'élection reste sans doute le meilleur moyen de valider si les mesures sont bonnes ou pas.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau.
Malgré sa courte histoire, l'ère numérique est déjà jalonnée d'objets à un moment décrit comme à la pointe de la technologie, qui nous ont parfois fait envie, mais pas toujours, avant d'être enterrés. Aujourd'hui, un montage d'archives traqué par Léa Dupuy-Yenquin, remixé par Hélène Bisio sur un appareil qui nous a initiés au téléphone portable au début des années 90, il y a donc maintenant plus de 25 ans, et qui avait la particularité d'exister dans seulement quelques villes à proximité de poteaux ornant un joli autocollant bleu et vert signé France Télécom.
Le bebop arrive à Paris, ce n'est pas le retour de la danse des années 40, mais le premier téléphone de poche déjà expérimenté à Strasbourg. Le bebop sera disponible lundi.
Ça marche à proximité de bornes d'une portée de 50 à 200 mètres suivant les lieux. Il coûte à peu près 2000 francs.
Les zones d'appel sont signalées par un bandeau vert, blanc et bleu collé sur les poteaux d'éclairage. Pour l'instant, seul l'utilisateur peut téléphoner, il ne peut être appelé.
Il faut pas s'attendre à voir une borne en rase campagne pour prévenir votre conjoint que la voiture est en panne. Pour ça, il y a les traditionnelles cabines. Ma liberté individuelle, elle est où ?
France Télécom, la fin d'une aventure, celle du bebop. Le petit téléphone français n'aura pas résisté à l'ère du GSM. Aujourd'hui, France Télécom
nous annonce qu'il va mettre fin à son aventure hasardeuse. Au fait, Christian Bobby, combien ça a coûté cette plaisanterie ?
400 millions de francs, c'est le montant total de la facture Bebop. Évidemment, à France Télécom, on vous assure que ces 400 millions n'ont pas été dépensés pour rien, qu'une partie des installations techniques seront réutilisées pour le réseau Itineris, que le Bebop a été une sorte de galop d'essai pour le premier opérateur français et qu'il a permis à des dizaines de milliers de personnes de s'essayer à la téléphonie mobile. Pour ceux qui se souviendront avoir payé leur Bebop 1500 francs, la pilule sera tout de même dure à avaler.
Et on peut dire aujourd'hui, Sophie Becherel, que le Bebop est un big flop.
8000 bornes relais impossibles à reconvertir et 20 000 derniers clients irréductibles qu'il faut indemniser. Quand le Bebop sera reconnu comme précurseur du téléphone mobile, vous aurez en votre possession une pièce de musée.
Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Le premier mobile en fonction en France a cessé d'émettre en 1997, alors qu'explosait le GSM. Merci à nos invités, Éric Le Gall, donc directeur général d'Issimédia, la société d'économie mixte chargée de la communication et des technologies de l'information de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Merci à vous. Merci Philippe Sorel, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Et puis également merci à Alain Rinck, que nous avons entendu, architecte urbaniste, fondateur et dirigeant de l'agence Host Architecte. Merci également à Morgane Tual, journaliste de la rubrique Pixel du Monde, partenaire de l'émission. Tous mes remerciements également à Petra Margut, architecte et chercheuse, pour ses éclaircissements sur les enjeux de la ville, et à Cap Digital, le pôle compétitivité de la transformation numérique, dont les équipes ont collaboré à la préparation du magazine. On se quitte sur la musique de Metropolis, le chef-d'œuvre de Fritz Lang et film culte d'ailleurs pour de nombreux architectes. C'est fini pour aujourd'hui, mais pas pour demain, ou du moins c'est fini jusqu'à samedi prochain, quelques jours de la rentrée scolaire, où on parlera d'éducation en s'interrogeant sur la conséquence de l'apparition des écrans dans l'enseignement. L'émission a été réalisée par Hélène Bisio, avec l'aide aujourd'hui de Raphaël Rousseau à la technique. Elle a été préparée par Léa Dupriennequin et Béatrix Moreau, et mise en musique par Thierry Dupin. Bon week-end à tous, pensez à vous déconnecter un peu, mais restez branchés sur France Inter.